Nous vous proposons maintenant d'écouter la traduction d'une interview réalisée en Iran par Victor Sadler et publiée dans la revue Esperanto de janvier 1978. C'est le professeur Saheb Zamani de l'université de Téhéran qui a répondu à ces questions. Sadler, il semble que vous êtes particulièrement lié idéologiquement à l'espéranto. Vous voyez en lui non seulement un instrument pour les contacts internationaux, mais aussi un moyen pour l'évolution de la jeunesse du tiers-monde. Saheb Zamani, regardons l'affaire du point de vue de la théorie de l'information. Nous devons choisir un moyen approprié de communication pour toute communication. Les prophètes universels, soit spirituels, soit matérialistes, n'ont jamais pensé à l'instrument de communication qu'ils devaient utiliser pour leur message. Par exemple, Marx a écrit que tous ceux qui souffrent doivent s'unir. Mais au moyen de quelle langue doivent-ils s'unir? Est-ce par le pashto, le farsi, le gujrati ou l'allemand? Doivent-ils apprendre l'allemand ou attendre la traduction dans leur langue? Et qui doit traduire? Est-ce que les aristocrates, qui ont pu voyager en Europe et apprendre des langues européennes, doivent traduire de telles œuvres pour les masses populaires, pour que celles-ci s'unissent et se rebellent contre l'aristocratie? L'héritage culturel de l'humanité s'est accumulé en premier lieu dans les pays occidentaux, et il manque un instrument de communication pour le transmettre dans les autres parties du monde. Le déséquilibre existe donc non seulement sur le plan de l'économie et de la santé, mais aussi celui du savoir. Et nous ne pouvons transmettre le savoir vers le tiers-monde. C'est seulement lorsque nous pourrons élever le niveau du savoir dans le tiers-monde que les peuples de ces pays pourront s'aider eux-mêmes. Et c'est seulement à ce moment que les autres peuples pourront les aider efficacement. La première aide que nous pouvons et devons leur accorder, c'est de leur donner un instrument de communication, comme le téléphone, par lequel ils puissent s'approprier le savoir, l'héritage culturel, la science et la technique de l'Occident, et, à l'aide de ceci, atteindre un droit à l'égalité et à l'équilibre culturel. Sans un tel instrument de communication, la discrimination demeurera dans le domaine culturel et par suite dans le domaine économique et peut-être aussi racial. Tout ceci à cause du handicap linguistique du tiers-monde qui ne peut suivre l'évolution mondiale de la culture et de la technique. Étant psychologue, je sais que l'intelligence humaine n'est pas la propriété spécifique des peuples occidentaux ou, politiquement, orientaux. Les peuples et la jeunesse du tiers-monde sont très intelligents aussi. La distribution de l'intelligence est partout la même. Donc, si ce handicap linguistique n'existait pas, il ne serait pas en retard. C'est pourquoi il s'agit plus que d'une simple idéologie. Sans un tel instrument de communication, je pense que toutes les idéologies n'auront aucun succès. Il est nécessaire de leur donner une langue neutre par laquelle ils pourront accéder à l'héritage culturel de l'humanité tout entière. Et, à mon avis, nous devons le faire pour la totalité du tiers-monde. Tous pourraient comprendre ceci si les intellectuels pouvaient leur parler et leur présenter la valeur de l'espéranto comme une révolution dans la thèse et l'antithèse de l'instrument de communication et de la communication, qui sont maintenant en synthèse. Je ne veux pas entrer plus profondément dans les théories de Marshall McLuhan sur l'instrument de communication et la communication. Elles sont fausses. Nous devons d'abord avoir l'instrument de communication et ensuite nous pourrons transmettre la communication. Lorsque je pense au problème de la jeunesse du tiers-monde, je constate que tout le monde dit superficiellement que la jeunesse a tel ou tel problème. Mais le problème fondamental est celui-ci. Actuellement, en Occident, il y a tellement de sciences, de savoirs et de techniques dont la jeunesse du tiers-monde pourrait profiter potentiellement, mais auxquelles elle ne peut accéder à cause des barrières linguistiques et de la discrimination. Je prévois donc une profonde révolution pour l'ensemble du tiers-monde. Ils peuvent atteindre ceci au moyen d'un instrument de communication très facile à apprendre. Les 347 années de domination coloniale britannique en Inde et dans d'autres parties du monde prouvent que les langues dites naturelles de l'Occident ne conviennent pas en tant qu'instrument de communication tel que celui dont nous avons besoin. Pour moi, l'espéranto est cet instrument de communication. Sadler, est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur la situation linguistique en Iran et expliquer aussi pourquoi les étudiants sont ici dans une position désavantagée dans l'acquisition des connaissances. Saheb Zamani. Eh bien, notre système d'enseignement ressemble en grande partie à de nombreux systèmes de l'Occident. Nous considérons le temps de la première année d'études à la 12e comme l'école, et après cela commence l'université, naturellement. Ces 12 années d'école se divisent en école élémentaire pour 5 années, 3 années d'école post-élémentaire et 4 années d'école secondaire ou lycée. Après cela, les élèves reçoivent un diplôme de sciences, mathématiques, sciences naturelles ou économie. Dans les écoles post-élémentaires ou moyennes, c'est-à-dire en tout pendant cette année, l'apprentissage d'une langue étrangère est obligatoire. Pour la plus grande part, c'est actuellement l'anglais, mais c'est aussi en partie l'arabe, naturellement. Cet apprentissage des langues étrangères dure approximativement 6 heures par semaine pendant 7 années. Cela signifie un cinquième du temps d'études, car le programme hebdomadaire est de 30 heures. Par conséquent, le coût doit aussi correspondre au cinquième du budget total du ministère de l'Éducation. D'après le budget de l'année dernière, cela représente une dépense de 400 millions de dollars américains rien que pour l'apprentissage des langues. Avec quel résultat ? L'année dernière, le ministre de l'Éducation a lui-même déclaré qu'après 7 années d'enseignement des langues, nos élèves ne sont pas même capables d'écrire ou de prononcer sans faute une seule phrase d'anglais. Donc, le résultat peut être considéré comme nul. La somme du temps utilisé, d'après des calculs approximatifs, dans nos écoles il y a environ 3 millions d'enfants, représente 1,2 milliard d'heures par an. En tout, pour cette année, ça signifie une dépense de 2,8 milliards de dollars et environ 9 milliards d'heures, rien que pour l'enseignement des langues. Et, à mon avis, basé sur des statistiques, des interviews et des articles parus en divers endroits, nulle part dans le tiers-monde, la situation de l'apprentissage des langues n'est meilleure que chez nous. En raison de semblables résultats, comme vous le savez, la langue anglaise n'est plus une matière obligatoire dans les écoles du Japon. En Inde, l'anglais ne devient qu'une langue semi-officielle. Il n'est plus la langue officielle. Et il n'a fallu pour cela environ que le 14e du temps que la puissance coloniale a eu besoin pour l'introduire en Inde. Vraiment, l'investissement de tant d'heures de travail et de moyens financiers est, pour les pays pauvres, une perte totale. Sadler. N'existe-t-il point une littérature scientifique adéquate en langue persane pour que les étudiants puissent se former par elle aux sciences et techniques modernes? Ou est-ce que l'on ne pourrait point faire évoluer une telle littérature en langue persane? Saheb Zamani. Comme vous le savez, la science croît, d'après les calculs des sociologues et historiens de la science, à raison d'à peu près 6,6% par an. Cela signifie que la littérature scientifique double dans la durée d'environ 11 ans. Je pourrais dire ouvertement qu'une telle croissance n'existe pas en langue persane, langue d'environ 35 millions d'hommes ici, et peut-être 50 millions en tout si l'on compte ceux qui la parlent en Afghanistan, Inde, Pakistan, Tadjikistan et autre part. D'autres langues encore n'ont en aucune manière pu concourir avec une croissance aussi importante de la science. Il n'est tout simplement pas possible de traduire dans une telle quantité de ces langues. Donc, nous ne possédons pas vraiment de littérature scientifique et c'est pourquoi nous devons étudier des langues étrangères. Nous avons une université de langue française à Hamadan, des universités anglaises à Shiraz, liées à des universités américaines. Nous avons des universités en langue arabe pour les études théologiques et on va fonder maintenant une université en langue allemande. C'est un vrai chaos. Et les hommes deviennent étrangers dans leur propre pays. Ils se lient soit à une culture, soit à une autre et nous perdons notre unité culturelle et notre personnalité culturelle. Les intellectuels deviennent toujours plus étrangers aux masses populaires et aussi entre elles, suivant qu'elles ont étudié aux États-Unis ou en France ou en Allemagne ou ailleurs. Nous devons apprendre une langue étrangère, donc pourquoi pas une langue universelle? J'ai fait allusion au coût de l'enseignement des langues étrangères dans les écoles, mais que l'on se souvienne que dans les universités aussi, on enseigne des langues étrangères. De même, dans diverses écoles élémentaires privées, qui sont très coûteuses, si bien que très peu de gens peuvent y envoyer leurs enfants. De nombreux enfants et étudiants vont à l'étranger pour apprendre une langue étrangère et ceci cause de nombreux malentendus et maux d'origine psychique. Beaucoup, lorsqu'ils reviennent de l'étranger, sont aliénés et ceci cause de nombreux problèmes pour notre pays. C'est la même chose dans tous les autres pays similaires.